Alors bonjour à la planète, ici le Canada, ici Montréal, ici Radio-Canada International, en direct du studio 26, dans les donjons de nos opérations, quelque part. On est enfoncé dans un studio ici en plein sous-sol, mais c'est parce que le soleil nous ferait fondre comme de la neige. Vous en rappelez-vous, on est Canadiens ou on l'est pas. Ici Stéphane Parent, nous voici maintenant... Attends, image studio s'il vous plaît, parce qu'on est très beau, on veut se voir, on veut que nous voyez. Hein? Alors, Alice, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour la planète.
Voilà, c'est un beau titre d'émission, c'est Bonsoir la planète, je pense que c'est Radio France Internationale qui fait cette émission.
Je crois que oui, hein? Oui.
Donc on a un peu joué sur le titre, ça leur appartient, on le reconnaît.
Ben oui,
suite.
Copyright,
ouais.
on le respecte.
Il nous manque un petit joueur.
Je pense que Mark devrait arriver d'un moment à l'autre.
Mark Montgomery de la section anglaise. J'allais dire, vous savez, les Anglais sont un peu par retard. Non. Pas du tout.
Du tout.
Il n'y en a qu'un seul qui est en retard.
Non, du tout. Il ne faut pas généraliser.
Non. Et aujourd'hui, à l'émission, il ne faudra pas généraliser. Il faudra être sérieux, puis à la fois avoir du plaisir ensemble de découvrir des choses que nous ne connaissons pas que nous connaissons mal.
C'est vrai.
Et là, on peut parler ici de nous, ici, comme simples citoyens canadiens. On n'était pas au courant qu'il y avait des problèmes entre les Wet'suwet'en, les gens qui appartiennent à une communauté
en Colombie-Britannique,
voilà,
qui s'oppose à un projet de pipeline.
Voilà. Puis c'est
un projet de gazoduc.
C'est pas une affaire nouvelle. Là.
Non,
si on suivait
tout.
Les nouvelles,
du
on
ça
apprendrait...
Ça fait 16 jours que le blocage continue sur les principales voies ferrées au Canada.
Et la chicane ou la dispute.
Avec des conséquences... économiques importantes.
Importantes, d'accord.
Oui.
Ça fait un bon bout de temps que ces choses se tramaient. Si vous lisez les journaux au Canada, on
tout
dit
qu'il
y avait des négociations depuis longtemps et puis on y portait peut-être pas attention. Le résultat, c'est que... moi, je n'avais pas commencé à tout expliquer. On a un invité remarquable aujourd'hui pour nous parler de ça. C'est un avocat. Comme si les choses n'étaient pas assez compliquées, on a invité un avocat.
Mais
un avocat en droit
d'automne. Pour nous dire pourquoi ça coince.
Voilà. Regardez ces images. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui nous regardent peut-être, je ne sais pas moi, au Chili... ou au Maroc, vous ne saviez pas qu'il y avait une crise entre une communauté amérindienne du nord de la Colombie-Britannique et puis les autorités à la fois policières et puis les autorités politiques et aussi le monde économique canadien.
Et puis de jeunes Canadiens aussi
qui
se sont immiscés dans cette cause-là.
Ouais,
vous savez, c'est des militants pro-environnementalistes, si vous voulez.
Voilà.
Et donc, ils contribuent au blocus du côté de Saint-Lambert au Québec.
Ça, c'est au Québec, mais il y a d'autres endroits au Canada où il y a des...
À différents endroits, hein, surtout au sein des communautés Mohawk, en Ontario et au Québec, la mobilisation ne désemplit pas.
D'accord. Voilà. Ben, merci pour ce résumé. Je suis sûr qu'on a oublié beaucoup de détails. Et c'est pour ça qu'on a 30 minutes devant nous pour remplir l'émission et puis vous expliquer tout ce qui se passe. Bonjour, Mark Montgomery.
Je suis venu.
Vous êtes venu.
Enfin.
Mark est un de ceux qui, à Radio-Canada International, connaît bien le dossier dont nous allons parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a invité à l'émission.
Bon.
Félicitations.
Merci.
D'être venu. Alors,
connaissance.
On ne vous fait pas la collade, on fait que vous serrez la main, parce que vous êtes arrivé un peu en retard. Bon. Et puis, je voulais tout de suite, vous savez, on a du plaisir quand même ensemble, même si on parle de choses sérieuses. On a le premier jeu de la grosse boule aujourd'hui.
Oh, juste à temps.
20 boules à perdre. Ben oui, attends, vous êtes arrivé à temps. Alors, voilà. Premier jeu, 20 boules à perdre. On va afficher la question. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mouvement « Idol No More ».
Mm-hmm.
Hein? C'est en quelle année, là? Vous êtes bon là-dedans, vous, Mark?
Oh, boy, oh, boy.
Ça, c'est de l'histoire.
Ben, c'est
ça fait quand même, je dirais, 4 ans, là. 3 ans.
Avant ça, un peu.
Ah, laisse-moi penser, là, peut-être 6 ans.
Ben, écoutez, les années passent vite, vous avez raison, mais c'était en 2012-2013, d'accord? En 2012, fin 2012, début 2013. Mm-hmm. Et puis, on va vous montrer après... avant la question, montrons les images de 2012. Ça ressemble beaucoup aux images de 2020.
De 2020, tout à fait.
C'était un soulèvement amérindien, populaire, en raison d'une nouvelle loi fédérale qui allait enlever une façon de négocier avec les Amérindiens, de leur reconnaître certains pouvoirs. Voilà des scènes à Toronto.
Mm-hmm.
Disons qu'il y a peut-être moins de gens aujourd'hui qui ont manifesté dimanche, par exemple, à Toronto, dans la crise actuelle. Mais à l'époque, on allait aussi devant le Parlement. Hein, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui.
Oui, c'est sûr qu'il y a une certaine similitude.
Ouais.
Parce que dans le mouvement d'aujourd'hui, hein, il y a toutes sortes de personnes qui se mêlent à la cause.
Voilà.
Comme je disais tantôt, on a de jeunes étudiants aussi, de jeunes millénarios. qui sont du côté de Saint-Lambert et qui participent à ce mouvement citoyen contre ce projet de gazoduc.
Saint-Lambert, c'est au sud de Montréal.
Sur la rive sud de Montréal.
C'est un banlieue, mettons. Mm-hmm.
Tout à fait. Et on a vu des policiers intervenir hier pour leur servir
l'injonction.
Comme une espèce d'injonction.
Oui.
Obtenu par le Canadien national du côté des autorités judiciaires québécoises.
D'accord.
Donc, en raison de cette injonction-là, les manifestants devraient en principe libérer les lieux.
C'est
sauf
parfait.
Que ils lancent comme une espèce de défi aux policiers sur place.
Cette histoire se répète en plusieurs coins du Canada depuis deux semaines. Premier tour de la grosse boule. Voici finalement notre question après avoir mis la table. On aime ça manger ensemble. Voici la question. Les actions de quel groupe ont déclenché en 2012 donc, Mark, le mouvement Idle No More? Idle No More, j'ai des difficultés à dire ça en anglais.
Oh,
en français, ce serait jamais plus l'inaction.
Pour moi, ce n'est pas la réponse A, parce que le A, quatre chefs spirituels, non.
Non.
Parce qu'aujourd'hui, on parle de quatre chefs héréditaires
ben oui.
dans la cause de 2020.
OK.
Donc, le A, éliminé d'office.
C'est votre logique, d'accord.
C'est ma logique.
Est-ce que
moi,
c'est les quatre agents de la GRC qui sont à l'origine de cette révolution amérindienne?
Moi, je dirais...
Est-ce que c'est ces quatre femmes amérindiennes?
Moi, je dirais quatre femmes aussi,
Pensez que les... Oui? Ah oui? C'est une intuition féminine ou quoi, là?
Ben, ça dépend de ce que tu veux dire par la déclencher, à quel moment. Là, c'est la crise dans une réserve en particulier ou est-ce que c'est la réaction du gouvernement qui est déclenchée?
C'est une question assez difficile. Souvent, les révolutions, les guerres sont déclenchées par un coup de feu, par quelque chose.
Wow.
D'accord? Mm-hmm. Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'était une manifestation de quatre agents chefs spirituels, quatre agents de la GRC, quatre femmes amérindiennes qui ont manifesté, je ne sais pas, ou quatre ministres du gouvernement qui auraient posé un geste inapproprié?
Peut-être quatre agents de la GRC.
Moi, je dirais C.
C, voilà. On a fini, on a visé 59 secondes.
Moi,
c'est fini.
Je dirais B.
C'est fini.
Ah, on a visé
B, d'accord. Alors, voici la bonne réponse. Qui va conserver ses boules? Levez la main si vous conservez vos boules. La réponse se fait attendre, mais c'est pour avoir plus de plaisir.
On a dit tous les deux, dès le départ. J'ai changé ma réponse quand j'étais plus dans les temps. Est-ce que ça compte?
Ben oui, ça compte.
Ça compte quand même.
Ça compte quand même. Même si vous étiez hors concours, ça compte quand même.
Bon.
Non, on va être généreux avec vous. Vous conservez vos points et Marc les perd. Ça améliore la compétition, je pense.
Bien sûr.
Une division ici.
Donc, personne n'a rien perdu jusque-là.
Ouais. Alors, fini le plaisir, on va maintenant s'intéresser, on va s'attaquer aux choses sérieuses, on va essayer de comprendre ce qui se passe, on va essayer ensemble de découvrir des affaires. Je pense qu'on a la bonne personne pour le faire. En entrevue aujourd'hui sur Skype, Maître Nadir André, qui est avocat en droit autochtone au cabinet BLG à Montréal. Maître André, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, sans révéler trop de secrets professionnels, j'ai eu l'occasion depuis lundi de vous suivre à la trace comme ça à travers le pays lors de vos bons professionnels. Vous êtes un gars très occupé, un homme très occupé. Est-ce que, je sais que je suis indiscret, est-ce que y a certaines des choses que vous faisiez cette semaine étaient rattachées à la crise actuelle ou vous êtes quelqu'un, de façon générale, qui vous occupait de d'autres dossiers? Je ne sais pas. Je vous pose une question comme ça en partant.
Le dossier en particulier préoccupe certains de mes clients et d'autres sont directement touchés par ce qui se passe présentement.
OK. C'est une confidentialité des professionnels. On s'entend là-dessus. Alors, mettez la table pour nous. Parlons d'abord des chefs héréditaires qui sont au cœur de cette situation politique, économique,
sociale.
Tout le monde ressent l'impact ou va le ressentir si on ne trouve pas une solution politique à ce qui se passe actuellement. Les chefs héréditaires disent s'opposer au tracé, à la construction d'un gazoduc sur un territoire dont ils estiment avoir la gestion ou avoir la responsabilité. Qui sont ces gens exactement? Et historiquement, qui sont-ils?
Ben, les chefs héréditaires des Wet'suwet'en sont des personnes représentants politiques des communautés qui exercent une structure gouvernementale qui est différente de celle des conseils de bande qu'on connaît mieux au Canada, qui sont des organismes élus en vertu de la loi sur les Indiens. Comme vous savez probablement, il y a 635 réserves indiennes au Canada, en plus de communautés métis et de communautés inuites. Parmi les 635 réserves, il y a donc 635 bandes et 635 conseils de bandes. Certains sont régis par la loi sur les Indiens, d'autres sont régis par un code électoral coutumier qui ressemble quand même aux élections de la loi sur les Indiens. Et certaines communautés ont des structures de gouvernance parallèles qui remontent à beaucoup plus longtemps que la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens, la première version, a été adoptée en 1876. Alors, pour certaines communautés qui avaient une structure de gouvernance avant la loi sur les Indiens, certaines ont conservé cette structure gouvernementale qui existe toujours. On peut penser aux Wet'suwet'en, on peut penser aux Iroquois et Mohawks dans la région de Montréal avec leur système de Longhouse. Alors que pour d'autres communautés, Le conseil de bande a remplacé la structure traditionnelle qui pouvait exister avant la loi sur les Indiens. Il y a eu, à ce moment-là, un amalgame de la structure gouvernementale vers un gouvernement unique qui est le conseil de bande. Et ça, ben, il faut connaître chaque situation et chaque Première Nation pour savoir que ce qui existe dans leur communauté particulièrement par rapport à la gouvernance. Chose qui est certaine, c'est que les gouvernements au Canada, que ce soit le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux, ne reconnaissent que les conseils de bande. Et c'est là le cœur du problème.
Mais est-ce que ce n'est pas un conflit, quand on parle des Wet'suwet'en, est-ce que ce n'est pas un conflit interne entre les deux camps, dans le sens que le camp de quelques héréditaires contre les chefs élus?
Ça peut paraître comme ça, et peut-être que c'est le cas, ou peut-être que ça ne l'est pas. Parce que dans certains cas, le conseil de bande, qui est créé en vertu de la loi sur les Indiens, d'un point de vue légal, n'exerce une autorité que sur le territoire de la réserve indienne. Lorsqu'on parle de territoire ancestral, donc on sort de la réserve, et là, ben, je peux vous dire, moi, que la loi sur les Indiens ne parle pas du tout d'une autorité d'un conseil de bande à l'extérieur de la terre de réserve. Et donc, lorsqu'on sort du territoire de la réserve, on entre dans une autre catégorie qui s'appelle les droits ancestraux, le titre indien et les droits issus de traités. Et là-dessus, sans porter de jugement personnel, je peux vous dire que la jurisprudence canadienne, notamment dans quelques jugements de la Colombie-Britannique, les tribunaux ont statué que on ne peut pas présumer que le conseil de bande est le détenteur légitime des droits ancestraux d'une communauté. C'est une question de preuve. Et c'est là que la gouvernance traditionnelle, comme celle des Wet'suwet'en, peut être pertinente par rapport à qui détient les droits collectifs issus de traités, droits ancestraux ou titres indiens au nom de la collectivité. On ne peut pas présumer que c'est toujours les conseils de bande qui détiennent cette légitimité-là. Et c'est ça qui fait l'objet du débat à l'heure actuelle.
Alice.
Oui, maître, on a entendu le premier ministre du Québec dire ces derniers temps que le blocage des voies ferrées un peu partout au pays était illégal. Dites-moi, dans quelle mesure cette action-là, cette activité-là est-elle illégale, étant donné le droit légitime des communautés autochtones sur leurs terres ancestrales?
Bon, et c'est un autre point très important, et c'est une question vraiment de perspective. Les tribunaux canadiens ont reconnu les droits ancestraux depuis 1990 avec l'arrêt Sparrow, et ont reconnu également le titre indien dans différents jugements, dont le plus récent qui date de 2014, qui s'appelle Tsikaltin, où est-ce que des Premières Nations de la Colombie-Britannique ont réussi à prouver leur titre autochtone sur leur territoire. Lorsqu'une Première Nation, et ça c'est la Cour suprême qui parle, lorsqu'une Première Nation dispose d'un titre et prouve son titre autochtone, ils ont un droit de veto sur les développements qui se portent sur leur territoire et leur consentement est nécessaire. Ceci ayant un bémol, de la justification de pouvoir porter atteinte à ces droits-là si on a agi de façon honorable, si on a consulté la population de façon adéquate. À ce moment-là, le consentement ne serait pas nécessairement requis parce qu'il y aurait eu de la consultation et de l'accommodement fait envers ces Premières Nations-là. Et dans le cas qui nous intéresse, dans le cas des Wet'suwet'en, ben, il n'y a pas seulement eu consultation et accommodement, il y a eu des ententes qu'on appelle communément des Impact Benefit Agreements, des ERA en français, des ententes sur les répercussions et avantages, où est-ce que la communauté, le conseil de bande a signé des ententes avec le promoteur et donc le promoteur a présumé que le consentement de la communauté avait été donné. Alors, il serait intéressant d'un point de vue légal, si les chefs héréditaires allaient devant les tribunaux puis invoquaient le fait que le consentement était biaisé, n'a pas été donné véritablement, il faudrait voir ce que les tribunaux amèneraient comme décision par rapport à cet enjeu-là. Donc, c'est une question que, dans la perspective autochtone, les Autochtones ont un titre. Et qu'on le prouve ou pas, c'est un fait indéniable. Alors, dans cette perspective-là des Wet'suwet'en, le consentement est requis et dans ce cas-là, il s'opposait au projet tel que présenté. Dans la perspective juridique occidentale, quiconque invoque un droit doit le prouver. Alors, on se retrouve dans une situation où est-ce que d'un côté, plusieurs nations autochtones disent « ben, je suis souverain, c'est mon territoire ». Et mon consentement est requis sur mon territoire. Je suis le propriétaire collectif de ce territoire-là. Il ne pourra pas y avoir de projet sans mon consentement. Alors que dans la perspective juridique occidentale, c'est si vous invoquez un droit, vous devez en faire la démonstration. Et cette démonstration-là est quand même assez difficile à faire.
Je voulais, avant d'aller vers le côté politique, et là, vous avez parlé d'une solution devant les tribunaux. Évidemment, ça, je pense que ça pourrait prendre du temps. Là, il y a une solution, une crise à laquelle il faut trouver une solution politique. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière sur cette nation-là, sur les citoyens de cette nation-là. Il y a eu une réunion hier, ou avant-hier, en fait, dans cette communauté. Et puis, il y a 200 personnes qui sont allées. Radio-Canada, CBC a filmé des images. Des gens qui se disaient parfois intimidés d'exprimer leur appui au projet, au tracé du gazoduc. Et il y a, c'est clair, une division au sein de la communauté. Et on se demande si cette division-là, elle n'affaiblit pas la portée de ce que les Amérindiens essaient d'amener à la table de la négociation. C'est jamais une bonne chose de diviser. Dans ce cas-ci, quand il y a les gens se sentent intimidés, ben c'est encore un peu plus... Au Canada, là, ça devient... l'article, le premier article lu hier à CBC, sur le web, c'était cette question de division, le point de vue des Amérindiens en faveur du gazoduc. Quoi dire au sujet de cette division?
La question que je vous pose, oui. Monsieur, c'est la position du gouvernement est assez difficile puisqu'on est une société démocratique. Et selon un des anciens chefs qui était à cette meeting-là, 85 % de Wet'suwet'en sont en faveur de ce projet-là. Donc, c'est une claire majorité, mais le gouvernement sera obligé de négocier avec la minorité des chefs traditionnels. Est-ce que ça ne le met pas dans une situation assez difficile? Merci.
Je comprends tout à fait la situation très délicate dans laquelle on se trouve, mais j'aimerais vous rappeler simplement qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de barricade chez les Wet'suwet'en. La GRC a démantelé cette barricade. Il n'y a rien qui empêche au projet d'aller de l'avant. La problématique, c'est l'appui qui a été reçu ailleurs. Ou est-ce que là, il y a des barricades qui bloquent des chemins de fer, comme vous savez, à Tandemega, Ganawagi, Listigouche et ailleurs. Alors, je sais que le point focal est... les Wet'suwet'en, parce que c'est ça qui a déclenché tout ça. Et là, il y a des conditions, il y a des négociations, et je comprends totalement la dynamique qui existe. Mais encore une fois, si on essaye d'expliquer Pourquoi il y a une crise? Parce qu'il y a une minorité de Wet'suwet'en qui sont en désaccord avec le projet. Je ne pense pas que ça soit complètement la compréhension du dossier. Ce qui est important de savoir, c'est que les groupes ailleurs, qui semblent également être des minorités, appuient la cause des Wet'suwet'en. Et maintenant, il y a une forme de solidarité qui fait en sorte que les enjeux sont de plus en plus difficiles à cerner, puis incluant les solutions.
Ouais, c'est une question de nombre, quelque part. Vous avez plus de gens qui manifestent dans les rues de Toronto, si on fait le total, qui se rangent derrière les chefs héréditaires que le nombre de personnes au niveau du territoire amérindien qui sont derrière leurs chefs héréditaires. C'est une situation un peu renversante, quelque part.
Oui, mais il n'y a rien d'étonnant. Vous savez, la première erreur qu'il faudrait faire, c'est de regarder les Autochtones comme étant un bloc homogène qui pense toutes de la même façon. Premièrement, il y a, comme dans la société en général, il y a des personnes qui vont appuyer des initiatives gouvernementales dans le secteur de l'industrie, alors que d'autres vont s'y opposer. Il y a plein de dossiers qui ne concernaient pas les Autochtones, par exemple des lignes de transport électrique dans les Laurentides il y a quelques années, où est-ce que des municipalités s'opposent à ces lignes de transport-là. Il y a eu des démonstrations, il y a eu des blocages de routes, etc. Même si, peut-être d'un point de vue global, les Québécois en général étaient d'accord avec cette ligne de transport-là, les personnes les plus touchées, eux, sont en désaccord. Je pense que ça fait partie de la démocratie, puis il faut vraiment le voir dans cet esprit-là, non pas de dire il y a une division au sein des Autochtones.
Parlons des.
C'est plutôt de reconnaître qu'il y a des Autochtones qui sont plus près de l'environnement puis de leurs droits territoriaux, alors qu'il y en a d'autres qui veulent des emplois, qui veulent du développement économique, et c'est tout à fait légitime.
On sait par ailleurs que les chefs héréditaires ont posé comme condition pour mettre un terme à cette crise-là le fait que la GRC libère les terres qui sont visées. On sait qu'hier, par exemple, la GRC a offert de se retirer, sauf que ça ne semble pas faire bouger les lignes de ce côté-là. Je ne sais pas, M. Legault a proposé qu'on fasse usage, qu'on fasse appel aux forces policières pour disperser les manifestants. Est-ce que ce serait une action légitime?
Premier ministre du Québec qui a dit ça.
Oui.
Ben, regardez, encore une fois, c'est une question qui est très imprévisible. Et personne n'a de boule de cristal. On pourrait très bien appliquer la loi, faire respecter les injonctions qui ont été octroyées par les différents tribunaux des différentes juridictions, et peut-être qu'il n'y a rien qui se passerait, ou que la réaction serait purement symbolique, et après quelques jours, tout serait rentré dans l'ordre. Ou ça peut également déclencher une étincelle à travers le pays, ou dans certaines parties du pays, où est-ce qu'il y aurait encore plus de démonstrations autochtones ou en appui avec les Autochtones, parce qu'oubliez pas qu'il n'y a pas juste des Autochtones là-dedans, il y a également toutes sortes de groupes d'intérêts qui participent maintenant aux manifestations. Alors, ça pourrait avoir un déclenchement, ou est-ce que là, on ne se contenterait pas de bloquer des voies ferrées, puis ça pourrait s'étendre aux routes ou à d'autres choses. Et ça, c'est très difficile de pouvoir deviner ce qui se passerait s'il y avait une action policière. Mais rappelez-vous la crise d'Oka, rappelez-vous Epperwash, il y a des précédents qui font en sorte que maintenant les gouvernements sont beaucoup plus prudents. Sachez par ailleurs qu'il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps par un institut qui regarde les politiques autochtones, et sachez que dans 85 % des cas où est-ce que des injonctions sont demandées par l'industrie et les gouvernements, dans 85 % des cas, les injonctions sont accordées. Alors que lorsque les Autochtones vont devant les tribunaux pour demander des injonctions pour que des projets ne se réalisent pas ou soient retardés, c'est moins de 15 % qui leur sont accordés. Fait que le rapport de force dans le monde des injonctions est définitivement presque toujours en faveur de l'industrie et des gouvernements.
Maître Nadir, on se bouscule ici à la table pour vous poser des questions, ce qui est très bon signe. Je pense que tout le monde, on va y venir, c'est la question de la réaction politique. Vous y avez fait allusion, Alice, au sujet du premier ministre du Québec, François Legault, qui a parlé d'une intervention musclée. Au niveau maintenant du premier ministre Justin Trudeau et puis du chef de l'opposition, Andrew Scheer, on a eu des échos bien différents, des réactions bien différentes. Un qui a dit on va prendre le temps de se parler, d'arriver à une solution.
Consensuelle, oui.
Voilà. Et Andrew Scheer qui a dit le gouvernement il répond avec trop de mollesse, là, il faut agir. On a le blanc et le noir en plein dans le visage, là. C'est troublant dans la mesure où on sait qu'on a eu des chicanes avec des copains, on sait qu'il faut se parler, il faut faire abaisser les tensions. C'est comme ça qu'on trouve des solutions. C'est pas en disant à l'autre, moi, je vais te dire comment faire les choses. Au niveau politique, est-ce qu'un va trop lentement et l'autre trop rapidement?
Ben, encore une fois, c'est une excellente question. Moi, comme avocat, j'ai pas nécessairement une opinion politique sur la chose. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que lorsqu'on s'en va devant les tribunaux, lorsque les Autochtones choisissent d'aller devant les tribunaux, pour vous donner un ordre d'idée, la cause des Ticaltines, où est-ce que le titre a été reconnu, c'est une cause qui a duré plus de 20 ans et qui a coûté 31 millions de dollars, dont 19 millions pour les Autochtones. Alors, on s'entend que pour des chefs héréditaires et pour des protestataires, cette avenue des tribunaux est improbable. Alors, reste des actions de désobéissance civile qui le restent. Alors, l'État, comment réagit l'État qui est habitué à des contestations judiciaires, qui est moins habitué et tolérant face à de la désobéissance civile, surtout lorsque des intérêts économiques qui sont en jeu et qui peuvent affecter ce qu'on appelle l'intérêt national, en plus de la réaction de la population en général, bon, l'État, normalement, va réagir de façon forte parce que l'État détient le monopole de la violence et de l'ordre et va vouloir rétablir cet ordre-là. D'un autre côté, les tribunaux ont dit l'honneur de la couronne envers les Autochtones, la réconciliation passe par le dialogue et la négociation. Alors, on se retrouve devant vraiment deux écoles de pensée par rapport au rôle de l'État. D'un côté, l'État doit maintenir l'ordre et s'assurer du bon développement économique et du transport et de la libre circulation des personnes et des biens. Et de l'autre côté, l'État envers les Autochtones a un rôle très spécifique de réconcilier ses relations et de trouver des accommodements à leurs préoccupations. Et on se retrouve vraiment devant ces deux philosophies avec le gouvernement Trudeau et d'autres, les provinces et l'opposition, le Parti conservateur, parce que ce n'est pas toute l'opposition au fédéral qui est du même avis, préconise la ligne plus dure. Et c'est vraiment un affrontement de philosophie par rapport à la relation entre les couronnes et les peuples autochtones.
Mais maître, si jamais l'impasse perdurait, on entend souvent en sciences politiques que lorsqu'il est question d'intérêt national, on ne transige pas. Donc, quelque part, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que dans les prochains jours, l'État fasse appel à la force, frappe du poing sur la table au nom des gros intérêts économiques qui sont en jeu?
C'est une possibilité et ce qu'il va falloir mesurer encore une fois, et on en entend de plus en plus parler, c'est que tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement Trudeau depuis 2015, et avouons-le quand même que même à l'époque du gouvernement Harper, il faut rappeler que c'est le gouvernement Harper qui a réglé la question de l'épineux dossier des pensionnats. C'est le gouvernement Harper qui a autorisé la commission de réconciliation et de vérité. C'est le gouvernement Harper qui a reconnu la déclaration des Nations unies sur les droits autochtones. Donc, il y avait déjà un début d'initiative qui a été accentué par le gouvernement Trudeau. Et les actions qui vont être décidées au fil des prochaines heures ou des prochains jours vont être déterminantes par rapport aux efforts qui ont été déployés pendant plusieurs années et pourraient ramener la situation à ce qu'elles étaient il y a quelques décennies de ça. Et ça serait très dommage. D'un autre côté, je peux aussi comprendre la situation dans laquelle l'État fait face, parce que on ne peut pas tolérer nécessairement que des actions de ce type-là. On est dans un état de droit, comme on l'appelle, de « rule of law », et de barrer des chemins de fer ou des routes ne sont pas nécessairement tolérables dans ce contexte-là.
Dernière question.
Ben, j'ai une question. C'est quoi l'implication pour le gouvernement dans la situation où on a les deux camps, les traditionnels ou les héréditaires, avec les autres chefs qui sont élus? Le gouvernement actuel et tous les gouvernements depuis l'histoire du Canada ont fait affaire avec les conseils élus. Le système est basé avec les communications fédéraux élus, les bandes élues. Mais maintenant, ils sont obligés de dealer, de faire des communications avec les chefs héréditaires traditionnels. S'ils commencent à donner le pouvoir à ce groupe-là, est-ce que ça ne risque pas peut-être de mettre tout le système en jeu, dans le sens que ça va donner théoriquement l'autorité ou plus d'autorité à d'autres bandes des chefs héréditaires?
Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez la situation assez sensible de l'Assemblée des Premières Nations, qui représente l'ensemble des 635 chefs élus en vertu de la loi sur les Indiens, ben, leur raisonnement est très prudent, parce qu'ils ne peuvent pas appuyer inconditionnellement des groupes qui ne sont pas des chefs élus et des conseils de bande. Donc, il n'y a personne réellement pour représenter les intérêts des gouvernances traditionnelles autochtones. Ceci étant dit, si vous faites de plus amples recherches, vous allez voir qu'il y a des politiques de négociation d'autonomie gouvernementale au niveau du gouvernement fédéral. Il est possible de sortir de la gouvernance de la loi sur les Indiens et de négocier une autonomie gouvernementale qui est différente, mais ça prend évidemment plusieurs années à négocier, et il n'y a pas beaucoup de communautés qui participent à cette démarche-là. Il existe également des traités modernes, où est-ce que il y en a 26 traités modernes depuis la Convention de la Baie James en 1975, et à l'intérieur de ces 26 traités-là, compte tenu que la loi sur les Indiens cesse de s'appliquer, il existe une gouvernance légitime qui est mise de l'avant et qui est acceptée par les gouvernements. Donc, il existe des alternatives, mais elles sont très longues et elles dépendent énormément de la volonté du gouvernement fédéral de conclure des ententes ou non avec différentes formes de gouvernance qui ne sont pas nécessairement des conseils de bande. Mais effectivement, c'est une question qui demeure très complexe.
Maître Nadir André, merci beaucoup d'avoir pris tout le temps cette semaine de nous parler. Et puis nous, c'est toujours un plaisir d'offrir à notre invité principal l'occasion de parler d'un sujet pendant 20-25 minutes. C'est pas toujours l'occasion de le faire comme ça sur nos différentes antennes. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci.
Avec grand plaisir. Alors, c'était Maître Nadir André qui travaille pour la firme d'avocats BLG à Montréal. Il fait le tour du Canada. Enfin, il faisait le tour du Canada cette semaine. C'était amusant. Je lui parlais, puis je lui ai rendu où? Ah, ben, on dit rendu des bons de plus que 7 lieux, là. Bons à travers le pays. C'était quelque chose à voir. On a encore de la place pour du plaisir. Encore un peu de place pour le dessert.
Encore quelques minutes.
Ouais.
OK.
Vous êtes pressé d'aller travailler, c'est ça? Mais vous travaillez en ce moment, comme
c'est
agréable.
On travaille partout. Hein?
Oui, c'est ça. C'est très agréable parce que le patron, il écoute. C'est très, très agréable. Oui. Voici. Écoutez, les amis. Deuxième jeu de la grosse boule cette semaine. Combien de boules à perdre?
Trop.
30. Trop, peut-être, dans votre cas. Mais 30, voilà. Et puis Alice a encore toutes ses boules. Vous en avez perdu 20.
Non, il n'en a pas perdu.
Ouais.
Oui, j'ai perdu.
Il en a perdu 20. Bon. Vous avez évité de les perdre, c'est ça qui s'est passé. Voilà. Alors voici la question.
Après avoir été décrit comme la personne experte.
Depuis 7 jours, depuis 7 jours, l'article, le service
voilà,
français...
Voilà, ça s'affiche pour le reste de la planète.
Sur la crise...
Voulez-vous reprendre ça? Parce que j'ai parlé sur vous, là.
Depuis 7 jours, combien d'articles le service français de RCI a-t-il produit sur la crise Wet'suwet'en?
Oui, alors...
7, 8, 9, aucune de ces réponses.
Pauvre Mark, vous êtes vraiment désavantagé parce que vous travaillez pour le service anglais. Vous avez publié combien d'articles pour le service anglais, Pierre?
Oh, plusieurs.
Plusieurs, oui, d'accord.
Le service en français.
Oui, le service français.
Depuis 7 jours.
Depuis 7 jours, exactement.
Aucune de ces réponses.
Aucune de ces réponses. Ce serait combien d'après vous?
Ce serait à peu près 5.
5?
Oui, 5 ou 6.
Mais comme vous avez écrit vous-même 5 articles quand même, ça peut pas
J'en ai écrit 5.
Bon.
Vous n'en avez pas fait.
Aucun?
Peut-être 2.
Mon Dieu.
7! J'irai avec 7.
Ah!
7!
C'est bien, elle se révise.
Oui, j'irai avec 7.
Parce que je crois que ça tourne.
Vous en avez fait 2.
Il reste 20 secondes.
20 secondes de changer d'avis.
Oui. Alors, vous dites 7?
Oui.
Vous avez encore le temps de changer d'idée?
Je persiste ici.
D'accord. Et vous, Marc?
Oui, j'avais dit 7 au début.
Oui.
Comme ça.
Comme ça. Parce que c'est un chiffre chanceux, évidemment, 7. Hein,
7, 7.
Je sais que j'en ai fait à peu près 5. Aujourd'hui, on est rendu à 5 avec moi et 2 pour vous.
Si ah oui, vous pensez, vous?
3.
Bon, on va afficher les bonnes réponses parce qu'il y a 2 bonnes réponses possibles. Oh! 8 ou 9. 9 si en incluant votre article que vous allez faire. Vous avez déjà publié.
Je l'ai déjà publié aujourd'hui.
Avant le début de l'émission. Juste quelques secondes avant, vous avez pressé sur le bouton « Publish ».
Bon.
Alors, c'est 9. Mais en fait, au moment d'écrire
vous
la question, c'était...
Vous en avez fait 3?
Ben oui, faites le compte, vous en avez fait 6.
OK.
J'en ai fait 3.
Bon.
D'accord? En fait, j'en ai fait 2, puis je pense Ismaël en a fait 1.
Non, Ismaël n'a pas
écrit là-dessus. Fait, donc j'en ai fait 3.
Bon.
J'oublie ce que je fais des fois. Et avec cette émission, ça fait 10
Ismaël
occasions
n'en a
d'en
pas
parler.
Fait, non.
Voilà.
Non.
Donc
dans le fond, c'est 8.
Oui. Puis nos internautes habitués, on avait davantage probablement plus rapidement la réponse, la bonne réponse que nous, ici, en studio. Okay. Alors, Marc, vous avez perdu 30 boules.
Encore une fois.
Encore. Vous en reste plus que 50. Êtes-vous prêt pour le dernier tour de boule?
Écoute, bon. Rien à perdre.
D'accord. Avant de vous présenter le dernier tour de boule, avant de perdre la boule, j'ai une petite... Je pense que c'est, je voulais vous présenter la vérification de la réponse. C'est ce qu'on pouvait voir cette semaine sur notre site web, de rcinet.ca, qui accompagne la diffusion de cette émission de Tam Tam Canada. Donc, c'est, je pense, notre vidéo numéro... voilà. La vidéo blanche, voilà.
Voilà, là, c'est tous les sujets qui
c'est
ont été...
C'est tous les articles qu'on a écrits.
Les articles publiés sur cette question-là.
Vous avez vu, vous en avez écrit plusieurs.
Hein? Oui, tout à fait, les réactions politiques et la mobilisation qui ne désemplit pas sur le terrain.
Il ne manque que votre article que vous avez publié
avant l'émission. Oui, de tout à l'heure. Je parlais du blocus à Saint-Lambert, où les manifestants continuent à défier les forces de l'ordre.
Très bien.
Voilà, donc tout le monde est sur l'expectative en attendant de voir ce que ça va donner. Est-ce que la GRC va la SQ va intervenir ou c'est la police locale, la police de Longueuil qui va intervenir?
D'où le fait que le premier ministre du Québec s'exprime assez facilement sur ce genre de questions. Parce
tout à fait, il a pris la parole tout à l'heure pour dire que tout était entre les mains des policiers de Longueuil et qu'ils pouvaient intervenir à tout moment.
Incessamment, d'accord. Écoutez, on est prêt pour notre troisième jeu?
Oui.
On va par la boule parce que...
Ah ouais, allez-y.
Voilà. On a fait une petite pause, mais là, on est prêt pour le dernier jeu. 50 boules à perdre. On va afficher la question pour le plaisir de tous et chacun. La Première Nation, Wet'suwet'en, compte combien d'habitants, selon vous? Combien d'habitants au niveau de la Première Nation, Wet'suwet'en?
Moi, je dirais...
Moi aussi, ils ne sont pas si nombreux que ça.
3450, ça ne me semble pas très élevé.
Ben, d'ailleurs, j'ai lu un article qui disait que
c'était...
ils ne
sont pas très nombreux. Hein?
2800.
2800.
Moi aussi, écoutez, j'irais avec A.
Ouais,
j'ai cru entendre quelque chose.
La bonne réponse, c'est environ. Environ A, environ B, environ C, environ D. Okay,
environ A.
Environ A.
Ils ne sont pas très nombreux.
Ouais. Vous avez tous raison, vous avez conservé malheureusement vos boules, 50 boules. Moi, je pensais que j'allais vous couler à l'examen.
Non, du tout. Du tout.
Ah oui, c'est à quoi ça ressemble des journalistes bien informés. Hein?
Ouais.
Félicitations.
On apprend des choses en écoutant l'émission.
En écoutant aussi l'actualité sur ce sujet-là, parce qu'ils en ont beaucoup parlé. Donc, c'est des gens qui ne sont pas très, très nombreux, mais qui sont par ailleurs très, très déterminés par rapport à leur cause.
Ouais.
Donc, ils poursuivent la mobilisation. Et les chefs héréditaires se trouvent du côté de l'Est canadien, où ils entendent rencontrer la communauté Mohawk pour les remercier
au
de
Québec,
leur appui au Québec et en Ontario.
En Ontario. D'accord.
Parce qu'en Ontario, du côté de Belleville, je crois,
oui,
ils ont rencontré des gens. Okay. C'est des gens qui les appuient depuis
pendant qu'ils font ces déplacements, ils n'ont pas le temps d'aller parler aux représentants du gouvernement fédéral.
Ben, ils ont posé des conditions à cela,
parmi
lesquelles le retrait de la GRC de leur terre.
Absolument.
Voilà. Donc, et pour le moment, ils ne sont pas prêts à négocier. Mm-hmm. Donc, tant que certaines de ces conditions-là ne sont pas respectées.
C'est bien. Je comprends très bien ce qui se passe. Merci, grâce à vous. Là. C'est fantastique. Et grâce, évidemment, à notre invité spécial. Et vous aviez une méchante de bonne question à la fin. Si on commence à négocier avec des chefs héréditaires de telle nation, que va-t-il se produire
jusqu'où
ensuite?
Jusqu'où va-t-on aller?
Oui, jusqu'où va-t-on aller quand on veut redéfinir
le système au complet?
Ouais. Tout à fait.
Peut-être.
C'est facile pour les journalistes de poser des questions et c'est très difficile pour les politiciens d'y répondre. Je trouve qu'on a le beau rôle quand même. C'est un peu facile notre affaire. On est prêt pour l'image de la semaine, qui est toujours notre événement bucolique, où on vous présente quelque chose sans trop vraiment avoir le sentiment de devoir tout expliquer, puisque c'est l'image de la semaine. C'est ce dont tout le monde parle en ce moment. Mais cette semaine, on va faire exception.
C'est pas toujours cette crise-là.
Non, c'est pas cette crise-là. L'image de la semaine, on essaie de faire que c'est quelque chose de différent du sujet principal de l'émission.
Un indice?
Okay. Moi, je réponds pas par des indices, je réponds par oui ou par non. Quelle est l'image de la semaine, cette semaine?
Oui.
Quelle est l'image?
Oui. Marc, what? Do you have something to say?
C'est non. Réponse, c'est non. Allez, continuez.
OK, non.
Autre question? Très sérieusement, on va mettre un compte, là, un décompte.
L'image de la semaine?
Oui. Allez-y. Question sur les... D'où... Est-ce que c'est minéral, végétal ou... Allez, posez des questions.
Politique?
Politique. Oui, il y a un aspect très politique à tout cela. Oui, oui.
Cette réunion à laquelle Andrew Scheer a été exclu?
Non, pas aussi politique que ça. C'est moins aussi, politique qu'on le pense. Oui. Oui.
Est-ce que ça est lié avec les Autochtones?
Non, ça n'a rien à voir avec les Autochtones.
Est-ce que c'est lié avec la maltraitance animale?
C'est lié avec... non, pas animal, non.
C'est-tu en Ontario?
Oui, c'est en Ontario. Ah oui, c'est en Ontario, okay. Monsieur.
Est-ce que c'est la manif des enseignants?
Non, ça aurait pu être ça, la manif des enseignants.
Est-ce que ça concerne les automobiles?
Non, ça ne concerne pas les automobiles. Ça concerne un avion puis des autobus, oui. Ah, ça, c'est un méchant
le
indice.
Le coronavirus.
Là. Oui, madame.
Le Diamond Princess. Oui. Les Canadiens qui sont de retour à la maison.
Voilà, on présente les images.
C'est ça.
L'image de la semaine.
Oui.
Là, c'est des images mouvantes. C'est l'avion qui atterrit à la base militaire de Trenton à 2h ce matin.
Oui.
Qui ramène 200 et quelques
Canadiens. À peu près 200 Canadiens, parce qu'on sait qu'il y a 47 qui sont restés sur place à Tokyo. Voilà, pour recevoir des soins.
Alors, après vérification médicale, on les met à bord d'autobus.
Tout à fait.
Voici le premier qui arrive. C'est pas une base militaire, même si vous allez voir des militaires. C'est un centre hôtelier de conférence en bordure de Cornwall, une petite ville que moi, je connais bien, puisque je m'y trouve. Ma maison est à 7 km de l'endroit.
À un jet de pierre de là.
Hein? à un jet de vent de là. Il y a beaucoup d'inquiétudes à Cornwall. Et même, vous m'avez appris quelque chose.
Oui, j'ai vu du côté de l'Ukraine un autobus qui a reçu des pierres.
Ah oui.
Un autobus qui transportait...
En Ukraine.
Certaines de ces personnes...
Pas au Canada.
Non, pas au Canada. Voilà. Non.
Alors, ils sont accueillis, vous allez voir, par des militaires. Et on ne les voit pas beaucoup parce que je pense qu'on veut respecter leur vie privée. Vous allez le voir, mais...
En fait, c'est des personnes qui vont rester en confinement pendant 17 jours.
Avec les personnes qui arrivent du Japon.
Donc, ouais. Le temps de voir si ces personnes-là ne sont pas touchées par le coronavirus.
14 jours de quarantaine.
Je pense que les autres qui sont arrivés il y a 2 semaines commencent à
partir.
De l'autre, c'est une base militaire à Trenton.
Ouais. Mm-hmm.
Là, ils sont à Cornwall, à la Nav Center, qui est
un
bâtiment fédéral.
Ben oui.
Mm-hmm. Pour, comme vous dites, centre de conférence, etc.
C'est ça.
Anciennement, je pense que c'est pour la garde côtière, non?
C'était pour former des gens à l'aviation,
Aviation, okay.
Nav Center, centre de navigation. Ah, vous avez peut-être raison, c'est peut-être que c'était maritime. Moi, je vous raconte ça, c'est juste à côté du fleuve Saint-Laurent. Vous pourriez tirer une roche, là, et ça tombe.
Pas encore des roches.
Pas encore.
Ouais, qu'est-ce qui arrive en Ukraine avec ça? Des problèmes.
Bon, on est influencé par l'actualité, c'est sûr.
Mais non, au Canada, on ne se lance pas de roches.
Ben non.
Je pensais que c'était
c'est des rochers, au nous. C'est plus gros.
Quand on a parlé d'Ontario, je pense que c'était le problème avec des nouvelles plaques d'automobile d'Ontario qu'on ne voit pas.
On voit rien! On ne sait pas c'est quoi le numéro de la plaque à rien. Les policiers se sont plaints. Le gouvernement a dit, on va remettre ça.
Ils vont les refaire maintenant. Oh, oui. C'est tout un scandale.
Ça absorbe toute la lumière. On voit absolument rien. Aucun détail.
Mais c'est bon pour les gens qui dépassent les vitesses. Les caméras automatiques ne peuvent pas prendre les photos.
Non, hein?
Vous entendez la musique?
C'est le temps.
Nous perdons le satellite dans 7 secondes. À la semaine prochaine.
C'est la fin de l'émission.